Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Le thème a été annoncé avec la prière qui a été demandée. Et justement ce matin nous allons voir cette belle prière de Daniel au chapitre 9. Donc je vous invite à prendre Daniel chapitre 9. Où ce chapitre relate la prière de Daniel et finit par la vision des 70 semaines. On ne dira pas les 70 semaines, mais on va s'arrêter ce matin plutôt sur la prière de Daniel. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mise devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans le livre, dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'as fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà. Nous voulons ce matin considérer cette belle prière de Daniel et nous n'allons pas regarder le chapitre, les versets qui parlent de ces 70 semaines. Nous verrons ça en étude biblique. Mais j'aimerais voir tout d'abord le mobile de la prière de Daniel. Qu'est-ce qui pousse Daniel à adresser à Dieu une prière aussi fervente, à confesser les péchés du peuple, à implorer la miséricorde de Dieu? Eh bien, nous lisons au verset, des versets 1 à 3, la première année de Darius, fils d'Assérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Voilà, le récit se déroule sous le règne de Darius. Donc nous sommes au niveau du chapitre 6, entre le chapitre 5 et 6, plutôt après le chapitre 5. Voilà, nous sommes donc en 538 avant Jésus-Christ. C'est la première année après la mort de Belshazzar. C'est la fin du chapitre 5. L'empire babylonien n'existe plus. C'est désormais l'empire médo-perse qui dirige le monde. Et c'est Darius, le maître qui a la tête de cet empire. Et nous lisons, prenez avec moi, Daniel chapitre 5, pour resituer un peu le contexte et le temps de ce récit. Daniel chapitre 5, à la fin du verset, à la fin du chapitre, pardon, chapitre 30. Daniel chapitre 5, verset 30. Cette nuit même, plutôt cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes le rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà, Pour mieux comprendre encore ce chapitre 9, il nous faut rappeler brièvement les événements qui sont évoqués au chapitre 1 du livre de Daniel, événements qui se sont déroulés en 605 avant Jésus-Christ. Donc, nous sommes en 538 et nous faisons un saut en arrière en 605 au premier chapitre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assiège Jérusalem et il déporte de nombreux juifs, dont Daniel et ses quatre compagnons, Hanania, Mischaël et Azaria. On lit ça au chapitre 1. La majeure partie de la population va suivre le même chemin par vagues successives. Donc 605 la première vague, 598 il y aura une deuxième déportation et Ézéchiel va faire partie de ce groupe. Et en 586, il y aura une troisième déportation. Et à ce moment-là, Jérusalem sera détruite par les Babyloniens. Et ça va marquer la fin du royaume de Juda. Et notre Daniel, il est à Babylone, quand on est au chapitre 9, ça fait 68 ans qu'il est à Babylone. Ça fait 68 ans qu'il a quitté Jérusalem, sa patrie. Et lorsque le chapitre 9 commence, Daniel est plus qu'octogénaire parce que lorsqu'il a quitté Jérusalem, il était adolescent, il avait à peu près 14 ans, ce qui lui fait maintenant 82 ans. On va dire 80 ans si on veut faire un chiffre rond. Alors, nous avons lu que lorsque Darius a conquéri le royaume de Babylone, puis a dirigé l'empire, on a vu que Daniel a occupé un poste élevé. Il est comme le premier ministre. Si Darius est le président, Daniel, c'est le premier ministre. Daniel est un homme important, il est fort occupé comme un premier ministre. Et Daniel, ça fait longtemps qu'il n'a pas revu Jérusalem. C'est maintenant un vieil homme. Mais sa foi n'a pas vieilli. Sa foi est restée ferme, vigoureuse. Et Daniel a été exposé à plusieurs tentations. La prospérité matérielle, comme les Juifs qui sont partis de Jérusalem, qui ont été déportés, ils sont arrivés à Babylone, ils ont pris racine et au fur et à mesure, certains se sont enrichis et ils ont oublié leur Dieu. Mais Daniel n'a jamais oublié son Dieu et dès le départ, au chapitre 1, Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, de rester fidèle à son Seigneur, à son Dieu. Parce qu'il a vu aussi dans sa jeunesse, par les prédications de Jérémie, par le livre de la loi qui avait été trouvé sous le règne de Josias, combien c'était néfaste de négliger la parole de Dieu, combien c'était néfaste de négliger les lois de Dieu, et combien c'était une catastrophe pour les personnes et pour la nation en entier. Daniel aussi bien donc tenté par la prospérité matérielle, mais aussi tenté par l'ambition personnelle. On a vu aussi dans ce chapitre, les chapitres précédents, au chapitre 6, que les chefs qui sont là, tout le monde veut avoir la première place, et on aimerait bien prendre la place de Daniel. Ils vont tout faire pour le sabrer. Et voilà, ils vont faire en sorte qu'il soit accusé, ils vont utiliser les lois de l'époque pour trouver une faille dans l'attitude de Daniel. En fait, Daniel est irréprochable. Mais comme il prie son Dieu, eh bien ils vont faire éditer une loi disant qu'on n'a pas le droit d'invoquer un autre Dieu que le roi. Et donc Daniel, lui, il va continuer à prier son Dieu comme d'habitude, 3 fois par jour, au prix de sa vie. Eh bien, vous voyez, depuis sa jeunesse, jusqu'à son âge mûr, et même durant sa vieillesse, Daniel a été assiégé par de multiples difficultés. Pourtant, ni la réussite, ni les difficultés n'ont pu affaiblir sa foi, ou l'amener à faire passer Dieu au second plan. Dieu a toujours eu la première place. La prière, malgré le fait qu'il risquait la fosse au lion, il y est allé. Il a continué à prier son Dieu comme il le faisait auparavant, les fenêtres ouvertes, tournées vers Jérusalem. Voilà. Eh bien, on voit que la foi de Daniel est restée vigoureuse. Et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'à 82 ans, sa foi est toujours vigoureuse? Eh bien, c'est quand le chapitre 9 s'ouvre, on voit que Daniel lit sa Bible. Daniel lit sa Bible. Nous lisons au verset 2, « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis, donc Daniel chapitre 9, verset 2, Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. On voit aussi que sa foi restait vigoureuse parce que Daniel, ensuite, se met à prier. Alors, il nous a dit, Daniel lit les livres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un livre, la Bible n'était pas un seul volume. Il y avait plusieurs rouleaux, il y avait une collection de livres. Donc, dans ces livres, il pouvait lire le prophète Jérémie. Et lors de la troisième vague de déportation, Jérusalem a été, et le temple a été pillé, tout ça a été en ruine, mais les rouleaux, la parole de l'Éternel a été préservée et a pu franchir les 1000 kilomètres qui séparent Jérusalem de Babylone sans encombre. Mes amis, Dieu prend soin de sa parole pour que ceux qui aiment la parole puissent la voir en main. Et vous voyez, nous avons aujourd'hui toute la Bible. C'est un précieux cadeau que Dieu nous a fait. Faisons-en bon usage. Daniel était le premier ministre, un homme fort occupé. Mais vous voyez, il prend le temps de lire la parole de Dieu. Il prend le temps, il trouve le temps de lire la parole de Dieu, de s'y pencher. Daniel aussi est un grand prophète. On a vu dans les chapitres précédents qu'il a déjà interprété deux songes de Nebuchadnezzar à l'époque babylonienne, dans le chapitre 2, dans le chapitre 4. On voit aussi qu'il a pu interpréter l'écriture sur la muraille à l'époque de Belshazzar, qui signifiait la chute de Babylone. On a vu aussi au chapitre 7 qu'il avait reçu la vision de quatre animaux, et au chapitre 8 qu'il avait reçu la vision du bouc et du bélier. Donc Daniel avait reçu toutes ces visions et puis des explications. Donc Daniel était un homme instruit des voies de Dieu, un homme qui avait une connaissance des choses de Dieu au-delà de tout le monde. Voilà, il était un homme sage, un homme instruit des choses de Dieu. Et certains événements n'étaient pas encore arrivés, que Daniel savait parfaitement tout ce qui allait arriver plus tard. Et pourtant, Daniel ne se lasse pas de lire la Bible. On peut dire, j'en sais déjà assez. J'ai pas besoin de lire le prophète Jérémie, j'ai pas besoin de lire la Bible. Dieu m'a déjà tellement parlé, je sais tout ce qui va se passer plus tard. Mais on voit que Daniel ne se lasse pas de lire sa Bible. Tout au long de sa vie, il lit sa Bible, il éprouve le besoin de lire sa Bible. Jusqu'à la fin de ses jours, on le voit là, le vieil homme, octogénaire, il éprouve le besoin de lire sa Bible. Ça doit nous encourager, frères et sœurs, de lire la Bible, en particulier l'Ancien Testament, parce qu'on y apprend des choses, beaucoup de choses. L'apôtre Paul avait ce même intérêt pour la parole de Dieu. Il était en prison quand il a écrit la deuxième lettre à Timothée. Et nous pouvons prendre 2 Timothée. Prenez 2 Timothée avec moi pour voir cela. 2 Timothée, chapitre 2. Et nous lisons 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 9. C'est Paul qui sent la fin arriver, il va passer le flambeau à Timothée et lui dit « Souviens-toi » de Timothée chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Voilà, Paul est en prison. Et qu'est-ce qu'il demande à Timothée au verset 13 ? Chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 13, il dit à Timothée, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Ah, on aurait pu dire, il va demander une couverture plus chaude, un oreiller pour être confortablement dans la prison. Non, il va demander les livres. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça, des livres, à la fin de sa vie? La parole de Dieu. C'est sa nourriture, c'est sa force, ça entretient sa vision des choses essentielles. Ça entretient ça, il a toujours envie d'étudier, de connaître davantage. Et pourtant, Paul est instruit de toutes les voies de Dieu. Il a reçu l'évangile de Jésus-Christ directement. Il n'a pas reçu des hommes, comme il disait aux Galates, mais il l'a reçu par une révélation directement de Jésus, du Seigneur. Et le voilà, même à la fin de sa vie, il sait que ça va être ses derniers jours. Il demande, n'oublie pas les parchemins, d'amener cela. Il va laisser aussi à Timothée ce conseil que nous connaissons bien dans 2 Timothée, chapitre 3, toujours dans la même lettre, verset 4, chapitre 3, verset 14. Il dit à Timothée, « toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Gardez un droit dans ce livre et regardons dans Luc aussi cette importance de la parole, Luc chapitre 24. Le Seigneur a été crucifié, les disciples sont découragés et il y a ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et Luc chapitre 24, verset 25, à ses disciples découragés, Luc chapitre 24, verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et voyez l'effet au verset 32, sur ses disciples, verset 32 du même chapitre, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Voilà l'importance de la parole de Dieu. Nous l'avons dans sa totalité aujourd'hui. Quand Paul parle à Timothée, ils n'ont pas encore le Nouveau Testament. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament qu'ils ont. Et c'est important parce que l'Ancien Testament, c'était la Bible du Seigneur Jésus. Regardez, c'est avec ça qu'il a encouragé les disciples, découragés sur le chemin d'Emmaüs. Et on le voit dès l'âge de 12 ans discuter dans le temple avec les scribes. Il discutait des choses de Dieu. Il était capable d'échanger avec eux. Il connaissait si bien la parole de Dieu, l'Ancien Testament, qu'il pouvait discuter. Et c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, les jeunes garçons de 12 ans avaient l'habitude d'apprendre par cœur des livres entiers de l'Ancien Testament. Et s'ils étaient doués, on leur donnait le titre de rabbi. Et c'est bien ce titre-là qui a été donné à Jésus, rabbi, parce qu'il connaissait bien la parole de Dieu. Il connaissait la parole aussi bien que ses outils de charpentier. Voyez l'importance de cette parole de Dieu. Et puis, là, donc, ça a servi au ministère de Jésus. C'est ce qu'il avait pour enseigner. Remarquez, dans Matthieu nous dit, chaque chose qu'il faisait, c'était afin que s'accomplissent les Écritures. Même à la fin, sur la croix, il passait dans son esprit les Écritures. Il disait, voilà, ça n'est pas encore fait. Le vinaigre, par exemple. Il fallait connaître les Écritures pour que la volonté de Dieu s'accomplisse à la lettre. Et l'apôtre Paul et les autres disciples ont aussi utilisé l'Ancien Testament, pour annoncer l'Évangile. Et donc, c'est dans l'Ancien Testament que le Seigneur trouvait les histoires qu'il avait chaque jour, les histoires qu'il entendait. C'est là qu'il avait les cantiques, c'est là qu'il avait les visions prophétiques qui ont donné de l'espoir à son peuple pendant la génération. C'est là aussi qu'il discernait le plan de Dieu pour Israël, son peuple, et à travers Israël, le plan de Dieu pour le monde. Et voilà là où Jésus trouvait... Voilà, tous les textes qui ont façonné sa personnalité et son ministère pendant qu'il était sur la terre. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas des hommes qui ont inspiré cette écriture, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. C'est Dieu qui a insufflé aux hommes ce qu'ils devaient dire et ce qu'ils devaient écrire. Et Dieu a permis que ça arrive comme ça. Parce que c'est ainsi que Dieu voulait nous faire parvenir sa volonté. Et il nous a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. C'est utile, c'est pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lisons, frères et sœurs, l'Ancien Testament. Nous l'avons en entier. Lisons l'Ancien Testament. Alors, on voit ensuite, revenons à Daniel chapitre 9. Alors, on voit que Daniel lit le prophète Jérémie. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et vous voyez, c'est parce qu'il a lu ce livre qu'il a été poussé à prier. Si nous voulons être des hommes et des femmes de prière, nous devons lire la parole. C'est là que nous allons trouver les sujets de prière. C'est là que nous allons être stimulés à prier parce que nous allons découvrir là les promesses de Dieu, nous allons découvrir la volonté de Dieu. Avant la chute de Babylone, les Juifs, qui étaient contemporains de Daniel, savaient que l'empire babylonien finirait par s'effondrer. Cela avait été annoncé à plusieurs reprises par Ésaïe et par Jérémie, dans Ésaïe au chapitre 13, au chapitre 14, au chapitre 21, au chapitre 46, Jérémie au chapitre 50 et 51. Ils savaient, les Juifs, que l'empire babylonien allait tomber. Ésaïe aussi avait même annoncé que Cyrus aurait eu un rôle à jouer dans cela, dans Ésaïe chapitre 44 et 45. Il y a eu aussi la vision de la grande statue que nous avons lue déjà au chapitre 2, la vision des quatre animaux qui nous montrait que l'empire de Babylone n'allait pas durer éternellement. Alors, lorsqu'il lit dans les rouleaux du prophète Jérémie, Daniel est interpellé par cette parole qui indique que l'exil va durer 70 ans. Jérémie avait annoncé cette durée déjà à deux reprises. Une première fois, on peut lire ça pour voir comme Daniel. Prenons Jérémie chapitre 25. Alors on prend un petit peu de temps aujourd'hui pour lire ces références. Jérémie chapitre 25, verset 1 et verset 11. Et 12. Jérémie chapitre 25, donc une première fois aux habitants de Jérusalem, l'année où Daniel a été déporté, la parole, Jérémie 25, chapitre 25, verset 1, la parole fut adressée à Jérémie, sur tout le peuple de Juda, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Et on va au verset 11, tout le pays. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Une deuxième fois aussi, quelques 8 années plus tard, Jérémie aussi a rappelé cette date, Jérémie 29, tournez juste les pages avec moi. On est à Jérémie 29, on dira le verset 1 et le verset 10. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Et nous lisons le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous de l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés de l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Voilà. Jérémie voulait avertir ses compatriotes, ses contemporains, sur la durée de l'exil. 70 ans. Ça allait être quelque chose qui allait durer longtemps. Le retour n'allait pas être pour tout de suite. On n'était pas parti à Babylone pour deux petites années et revenir après. Et c'était aussi pour mettre en garde contre les prophètes qui diraient que le retour serait imminent. Et donc, et à tel point que Jérémie va les encourager à s'installer à Babylone. On peut reprendre le chapitre 29 et garder un doigt dans ce chapitre 29 où il dit, donc c'est Jérémie qui dit, au verset 4 du chapitre 29, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà, le Seigneur qui dit, installez-vous, ça va durer un temps. Mais voilà, prenez patience. Et donc, on a vu que ça fait 68 ans que Daniel est à Babylone et l'exil doit durer 70 ans. Il reste juste 2 ans avant le retour. Imaginez l'excitation de Daniel. Wow, c'est génial, on a fini, c'est bientôt fini, là, ces années d'exil. Pendant 68 ans, il a prié 3 fois par jour en direction de Jérusalem. La fenêtre ouverte, Daniel chapitre 6, verset 10. Il n'a jamais oublié Jérusalem. Le désir de retourner ne l'a jamais laissé. Mais voilà, il n'y a aucun signe visible qui annonce que la promesse de retour va se réaliser. C'est vrai que l'Empire babylonien est tombé, maintenant c'est l'Empire médo-perse qui dirige le monde, mais ils ne sont pas décidés à laisser partir les Juifs chez eux. Et les quelques Juifs qui sont là ne recherchent pas vraiment Dieu. On a vu que Daniel et ses compagnons sont attachés au Seigneur, et peut-être quelques-uns encore, mais la plupart d'entre eux se sont maintenant installés, et Dieu et les lois de Dieu, c'est quelque chose de lointain, ça. Alors, que faire? Que faire? Daniel a lu cette promesse, il voit qu'il ne reste que 2 ans, que faire? Attendre que Dieu réalise sa promesse? De toutes les façons, peu importe ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, Dieu est tout-puissant, il a promis le retour, et cela se fera. Le retour a bien lieu. Est-ce qu'ainsi que Daniel raisonne dans ce texte? Est-ce qu'il reste là à attendre que les choses de Dieu se passent sans rien faire? On voit au contraire, puisque Dieu a promis le retour, cela pousse Daniel à prier et à intercéder pour le retour. Daniel dit en quelque sorte, l'Éternel a annoncé qu'après 70 ans de captivité, les enfants d'Israël pourraient retourner dans leur pays. Dieu l'a promis, je vais donc prier afin que Dieu détourne sa colère de Jérusalem et que le retour puisse avoir lieu. La Bible enseigne clairement la souveraineté de Dieu et en même temps la responsabilité de l'homme. Hein? Les événements que Dieu a décrétés doivent aussi se réaliser par la prière. Et nous avons lu dans Jérémie, au chapitre 29, versets 11 et 12, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous avons lu ces versets. Eh bien, vous voyez, Dieu ne dit pas « Il est inutile de me supplier, il est inutile de prier, il est inutile de m'invoquer, je vais faire ça de toutes les façons. » Mais au contraire, Dieu dit, et vous avez lu avec moi, au chapitre 29 de Jérémie, au verset 12, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voilà, la prière n'est pas inutile, mais elle est un moyen pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en son temps et de sa manière. De la même façon, vous connaissez l'histoire d'Élie qui avait prié pour qu'il ne pleuve pas, et la sécheresse était là. Et Dieu lui avait dit dans 1 Roi chapitre 18, « Va, présente-toi devant Acab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Dieu a dit qu'il ferait tomber de la pluie. Et est-ce que Élie a dit « c'est pas la peine de prier » Au contraire, on voit que Élie se met aussitôt à prier, on lit ça dans Jacques chapitre 18, « Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » David aussi est encouragé à prier Dieu lorsque Dieu lui dit que il aura un fils qui sera toujours sur le trône. Dans 2 Samuel chapitre 7 verset 11, l'Éternel lui dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Au verset 16 aussi. Et David dit pas « Dieu a dit ça, parfait, je ne fais rien, je reste là, de toutes les façons ça va se faire. » On lit au contraire que David prie ainsi, maintenant, dans 2 Samuel chapitre 7, « Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. » Vous pouvez voir ça avec moi dans 2 Samuel. Donc, c'est Dieu qui fait la promesse dans 2 Samuel chapitre 7 verset 16 et un peu dans tout le chapitre, et 2 Samuel chapitre 16 verset 16 où Dieu dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Et on voit que David au verset 25 de 2 Samuel chapitre 7 dit « Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. » Et on voit aussi au verset 27, « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, « Je te fonderai une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. « Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » Verset 29, « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur Éternel, qui a parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. » Voilà. Les promesses de Dieu ne nous laissent pas passifs, mais au contraire, nous poussent à prier l'Éternel pour qu'il accomplisse sa volonté. Donc, nous devons, quand nous lisons la parole de Dieu, l'Ancien Testament, comme nouveau, chercher les promesses de Dieu et nous appuyer dessus pour intercéder pour les choses de Dieu. Voilà, le Seigneur a dit, notre Seigneur aussi savait qu'il serait glorifié après sa mort et sa résurrection. Et pourtant, nous le voyons dans sa prière, dans Jean 17, où il dit, Jean 17, chapitre 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Voilà, il savait aussi, le Seigneur, que ses disciples ne se perdraient pas, et pourtant il va demander à son Père de les garder en son nom. Jean 17, 11. La prière, donc, aucune place importante dans le plan de Dieu. Et Dieu agit dans l'histoire à cause de ses promesses, oui, Dieu est souverain, mais il agit aussi à cause des prières de son peuple. Et on voit même dans l'Apocalypse que ces prières-là sont utilisées pour faire avancer le plan de Dieu. Et vous savez quoi? Daniel a prié et quelques mois après, Cyrus va annoncer aux Juifs qu'ils peuvent rentrer à Jérusalem, qu'ils peuvent rentrer chez eux. Dieu a fait une promesse, Daniel a prié et la promesse est accomplie. Donc, prier selon la volonté, c'est sonder les Écritures. Chercher les promesses de Dieu et prier pour qu'il accomplisse ses promesses. Donc les Écritures sont une source précieuse de promesses. Dieu a-t-il promis que l'Évangile va s'étendre depuis Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre? C'est ce qu'il a promis. Alors prions que l'Évangile s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Et il s'étendra, Actes chapitre 1, verset 8. Dieu n'a-t-il pas dit dans Ésaïe 55 que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins? Alors prions pour que la parole de Dieu soit efficace dans le cœur de ceux qui l'entendent. Eh bien, la parole de Dieu sera efficace dans le cœur de ceux qui l'entendent. Alors regardons, pour terminer de près, la prière de Daniel. Donc on ne va pas la lire, mais on va souligner quelques points. Donc on revient au chapitre 9, des versets 4 à 19. On voit que cette prière est globalement une confession. Les versets 4 à 14 sont globalement une confession. Et au verset 15 à 19, Daniel fait appel à la miséricorde de Dieu. Alors Daniel, on nous a dit au verset 3 que Daniel, il tourne sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Puisque Daniel jeûne, il avait l'intention de prier longuement. Vous savez que quand on jeûne, c'est pas pour une heure ou deux heures, c'est pour un certain temps. On va voir Daniel prier un peu plus longuement dans le chapitre 10, ou quelques semaines. Et on voit Daniel aussi qui prend le sac et la cendre, ça se faisait dans l'Ancien Testament, en signe d'humilité, de désolation. Et on voit donc que Daniel confesse les péchés du peuple. Des versets 4 à 5, « Je prie l'Éternel, mon Dieu, je fis cette confession. » Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Au verset 7, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Au verset 6, nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Voilà, Daniel confesse le péché de son peuple. Mais vous remarquerez que des versets 4 jusqu'au verset 14, même 13, Daniel ne va pas dire, le peuple a péché, ils ont péché. Daniel va employer nous, il va être solidaire du peuple. Au moins 20 fois, nous. Parce que tout le peuple a péché. Daniel se met avec eux, il s'associe avec eux dans la confession des péchés. On voit aussi que, et pourtant Daniel est un homme fidèle. Dieu va dire, car tu es un bien-aimé, au verset 23 du chapitre 9. dans Ézéchiel aussi, au chapitre 14, dans Daniel, Ézéchiel 14, au verset 14 et 20, verset 20, Dieu va appeler Daniel un bien-aimé. Au verset, Daniel chapitre 10, verset 19, Daniel est un bien-aimé, et pourtant, il s'associe au peuple, il confesse les péchés. Daniel confesse des faits, mais aussi il remonte aux causes. Au verset 10, il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Il va dire au verset 11, nous avons transgressé ta loi. Au verset 13, il va dire, nous ne sommes pas détournés de nos iniquités. Donc, non seulement Daniel confesse les faits, mais il remonte aussi aux causes qui ont mené Dieu à châtier le peuple. Et Daniel aussi va reconnaître que Dieu est juste dans toutes ses voies. Dieu est juste dans toutes ses voies. Au verset 14, il dit, l'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et on voit aussi, donc, ce premier volet de la prière, une confession des péchés, mais on voit aussi qu'à plus tard, Daniel, des versets 15 à 19, Daniel va faire appel à la miséricorde de Dieu. Et donc là, Daniel fait appel à la miséricorde de Dieu, et comme Moïse, il va chercher à convaincre Dieu de l'écouter. Il va rappeler sans cesse à Dieu l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Et au verset 15, il va parler de ton peuple. Au verset 16, ta ville de Jérusalem, ta montagne sainte, ton sanctuaire. Il va reprendre ces arguments-là. Daniel, c'est un homme qui intercède, comme Moïse aussi a intercédé à l'époque pour le peuple d'Israël. Et Daniel, au verset 15, a rappelé les exploits de Dieu. Regarde, tu as délivré ton peuple du joug égyptien. Tu l'as fait une fois. Tu l'as déjà fait, tu as déjà fait de grandes choses pour ce peuple. Tu peux faire une nouvelle fois une telle chose. Tu peux aussi l'arracher à la captivité. Et vous voyez, de même que Daniel s'est identifié au peuple dans la première partie de sa prière, Daniel va rappeler que Dieu s'est aussi identifié à Israël dans le passé. La renommée de Dieu est liée à cette ville, à ce peuple, à cette montagne, à ce sanctuaire. Versets 16 à 19. Ce qui importe le plus dans la prière de Daniel, c'est l'honneur de Dieu. Et pour que Dieu soit honoré, il faut qu'il fasse quelque chose pour le peuple. Pour l'amour du Seigneur, verset 17, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Verset 19, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alors, pour ne pas vous garder plus longtemps, je termine en disant, mais Daniel a prié comme ça, il a confessé ses péchés, les péchés du peuple, il s'est associé à eux, il a rappelé à Dieu, il a intercédé devant Dieu, il a rappelé, mais Seigneur, ce peuple est le tien, ta montagne, ta ville, ton peuple, tu as fait une alliance avec eux, si tu ne fais rien, ton nom sera déshonoré. Qu'est-ce qui se produit après ça? Eh bien, Daniel s'est tourné vers Dieu, et bien maintenant, Dieu se tourne vers lui, et on voit que l'ange Gabriel arrive rapidement. Et on voit donc des versets 20 à 23 qu'il y a un exaucement rapide. Et de plusieurs manières, le texte nous montre que la réponse de l'Éternel a été rapide. On voit que tout d'abord, Daniel insiste sur le fait que la réponse est arrivée avant la fin de la prière. Nous sommes au verset 20 et 21 et à cinq reprises, il va signaler ça. Verset 20 dit « Je parlais encore, première chose, dans ma prière. » Il va dire « Je priais. » Ensuite, il va rajouter « Je confessais mon péché ». Ensuite, il va dire « Je présentais mes supplications à l'Éternel ». Ça fait déjà quatre fois. Et la cinquième fois, au verset 21, « Je parlais encore dans ma prière ». Pour dire que la réponse est arrivée avant même la fin de la prière. Le texte aussi souligne la rapidité avec laquelle l'ange s'est approché. Nous le lisons au verset 21. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans ma vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Et on voit aussi que l'ordre a été donné d'en haut. Au verset 23, Dieu était pressé de communiquer à Daniel la réponse à la prière, de sa prière. Verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et voilà cette vision qui commence. Dieu était pressé de répondre. Le Seigneur révèle à Daniel ensuite de grandes choses. Et c'est à Jérémie, au verset 33, chapitre 33, verset 3, que Dieu dira, il nous dit aussi, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Effectivement, Dieu va révéler à Daniel des choses extraordinaires dans cette vision des 70 semaines. Comme Daniel, frères et sœurs, chers amis, nous possédons tout ce qui est nécessaire à une plus grande connaissance de Dieu, à une plus grande appréciation de ses voies, à une plus grande paix dans toutes les difficultés que nous vivons. Ces choses sont la parole de Dieu et la prière. Et au chapitre 6, Daniel a risqué sa vie pour prier. Frères et sœurs, si nous prions, nous ne risquons pas la fosse aux lions. Quelqu'un qui viendrait le mercredi soir en réunion de prière ne risque pas de croiser un lion enragé, peut-être un chaton ou un chat, mais pas un lion. Donc nous avons la liberté, frères et sœurs, de prier. Prions. Lisons la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, l'Ancien Testament, pour croître dans sa grâce et dans sa connaissance, la connaissance de Dieu, pour prier selon sa volonté, afin qu'il soit glorifié en toutes choses. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, l'Église de Savigny, l'Église universelle, dans toutes les générations, hier, aujourd'hui et demain, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il fasse de nous des lecteurs de la parole et des hommes et des femmes de prière. Voilà.